France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture, produit avec la collaboration d'Avril Ventura, réalisé par Perret Legras. Paul Guig est à la prise de son. Ce soir, souffrance à l'éducation nationale. Alors, ce ne sera pas l'émission la plus gaie de la saison, mais certaines informations nous percutent. C'est même une accumulation de mauvaises nouvelles venant de l'école. Des suicides, des histoires de maltraitance au travail rapportées dans la presse locale ou nationale qui provoquent des arrêts maladie, alors que parfois démissionner s'avère impossible. Nous allons donc ce soir nous pencher en particulier sur le cas de l'Académie de Normandie. Et plus généralement, que cette souffrance au travail nous apprend des difficultés à enseigner aujourd'hui et du fonctionnement de l'institution scolaire. Quelles conclusions en tirer alors qu'en 2025, on est à la recherche des profs perdus une fois de plus. Le nombre de candidats au concours de recrutement baisse. Ils seront 3000 de moins cette année. Bonsoir Mathieu Bosque.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et président de Picardie Debout, auteur à la recherche des profs perdus. J'ai fait un petit clin d'œil au titre de votre livre. C'est une enquête publiée chez l'Aube, donc ce 7 février. Vous parlez d'aujourd'hui et d'hier. C'est aussi une enquête historique. On va revenir sur la manière dont ce livre est construit. Quand je parle de souffrance à l'éducation nationale, est-ce que c'est une des choses, pas la seule, que vous avez rencontrée dans votre enquête?
Alors, disons que La deuxième invitée de ce soir, je pense, va être plus percutante.
Ah oui, j'ai
que
plusieurs
moi.
Questions à lui poser d'un coup, mais je voulais vous demander ce que vous qui venez de publier un livre, très original d'ailleurs, sur l'école, vous aviez en dire.
Oui, j'en ai vu, mais je dirais pas de votre émission qui traite à la souffrance, la maltraitance au travail. Dans mon enquête, j'ai pas vraiment vu cette maltraitance-là. Ce que j'ai vu, c'est une perte de sens. J'ai vu des gens qui me parlaient de l'éducation nationale, au final, comme une prison dorée, où on restait parce qu'il y avait les vacances, mais le cœur de ce qui faisait le métier d'enseignant, le sens du métier, aujourd'hui, les profs, c'est leur première question. Quelle est ma place? Quelle est ma place dans la société aujourd'hui? Et donc, cette perte de sens, elle questionne. S'il y a de la maltraitance dans les personnes que j'ai rencontrées, je dirais que c'est chez les jobs d'été. Il y a des chapitres...
Ouais. Les profs contractuels qui ont été recrutés extrêmement rapidement.
Exactement. Il y a des postes qui sont non pourvus à l'éducation, au concours de l'éducation nationale. C'est-à-dire que l'éducation nationale ouvre des postes, les gens candidatent au concours. Et c'est localisé dans les académies de Créteil et Versailles en particulier, et dans le primaire, l'éducation nationale prend tout le monde au concours. Et même ça... Ça ne suffit pas pour
remplir
les postes.
Besoins.
Donc, ils organisent des grands salons de job dating. On peut se faire recruter en 30 secondes. Et à Pôle emploi, on vient vous voir. Et enfin, vous êtes à Pôle emploi, vous travaillez dans la logistique. Et on vous dit, Madame Touré, vous avez un CV exceptionnel pour l'éducation nationale. Et 14 jours plus tard, vous êtes prof devant la classe de CE2 à Vitry-sur-Seine.
Vous savez que je l'ai fait. J'ai enseigné en classe de français. Effectivement, on peut être très rapidement recruté. J'espère néanmoins avoir eu quelques compétences. Mais on est étonné par la rapidité, et ça ne date pas d'hier, de ces recrutements qui peuvent effectivement engendrer de la souffrance. Vous en parlez, souffrance très présente dans l'Académie de Normandie. Claire-Marie Ferré, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire académique du SNES FSU Normandie. C'est là... Troisième académie de France, 4,7% des élèves, j'ai trouvé cette statistique. On parlait de l'académie de Versailles, c'est la première. Une grande académie, qui est la fusion de deux académies. Alors, que se passe-t-il, tout simplement, que se passe-t-il pour que votre syndicat ait donné l'alerte?
Alors, on a donné l'alerte, effectivement, parce qu'on a constaté, malheureusement, une série de suicides, 9 suicides de collègues sur le terrain en 7 mois, soit beaucoup plus que ce qu'on pouvait constater les années précédentes. Et si on a tiré le signal d'alarme, c'est surtout parce que le rectorat refusait absolument d'en parler, de mener les enquêtes qui permettaient de faire un peu la lumière sur ces événements dramatiques, et de se poser la question, justement, de la souffrance au travail et de la santé des collègues partout sur le terrain.
Alors, on a du mal à en parler. D'ailleurs, ici, on a voulu inviter des représentants de l'éducation nationale. On n'a pas réussi. Et on a de moins en moins de succès, d'ailleurs, avec ces demandes, quand on pose des questions un peu difficiles, telles que celles que nous soulevons ce soir, sur la souffrance au travail, alors quel que soit le statut des enseignants, et pas que des enseignants. C'est pour ça que je disais personnel aussi, parce que Claire-Marie Ferré, ce ne sont pas que ou seulement des enseignants.
Non, malheureusement, c'est bien l'ensemble des personnels qui sont concernés. On pense évidemment aux AESH, qui sont très souvent dans les accompagnants des élèves en situation de handicap, qui sont souvent dans des situations de grande précarité et qui subissent, elles, pour le coup, vraiment beaucoup de maltraitance de la part de l'institution. Et puis aussi les enseignants, les personnels de vie scolaire, tous les collègues qui font tourner les établissements et les écoles au quotidien.
C'est quoi la maltraitance de la part de l'institution, par exemple?
Malheureusement, la maltraitance, elle prend des formes diverses, mais elle est d'abord, ces dernières années, elle se caractérise d'abord par un management de plus en plus brutal. Là où on avait avant une forme de sens du service public, aujourd'hui on essaye d'appliquer un management autoritaire qui prive quand même la plupart du temps les personnels d'une forme et de liberté et de maîtrise de leur métier. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie des choses qui sont vraiment très difficiles à vivre au quotidien.
Alors, des réponses, on n'a pas eu beaucoup, mais tout de même, il y a eu une grande réunion à la fin du mois de janvier. En fait, c'est Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation elle-même, qui en parlait au micro de France 3 Normandie il y a quelque temps, parce que évidemment, on l'a, en particulier dans cette académie, questionnée sur ce mal-être au travail.
C'est évidemment toujours des drames. Quand on a un suicide d'un personnel de l'éducation nationale, il faut impérativement qu'il y ait une enquête administrative et qu'il y ait une réunion de l'instance spécialisée qui doit traiter des sujets de prévention et de bien-être au travail. Et par ailleurs, ça signifie aussi qu'il faut qu'il y ait une concertation sur les difficultés du métier, sur la qualité de vie au travail.
Ce que disent les syndicats, c'est que, en fait, cette concertation, elle a eu lieu, effectivement. Il y a une réunion le 29 janvier dernier.
J'avais souhaité, en effet, qu'elle puisse se tenir fin janvier. Et il faut que le travail se poursuive au sein de l'académie.
Alors, que s'est-il passé ce 29 janvier? Cette réunion et ce travail au sein de l'Académie a-t-il été entamé?
Alors, le travail a été entamé. Je pense que le fait qu'on ait décidé de porter le sujet sur la place publique, ça a contraint le rectorat à sortir et de son silence et de son inaction. Donc, on a eu quelques promesses à cette occasion, puisque sur les 9 suicides que nous recensions et sur lesquels le rectorat a fini par tomber d'accord après une querelle de chiffres relativement sordides. Sur les 9 suicides, il a finalement été acté que 5 enquêtes seraient ouvertes pour déterminer le rôle du travail, l'organisation du service dans ces événements dramatiques. Là, je réentends la ministre Elisabeth Borne dire qu'à chaque fois, il faut une enquête. Là, le rectorat nous a dit qu'il y en aurait 5 sur les 9 suicides, sachant que maintenant, on attend des faits et on attend qu'elles se mettent concrètement en place et qu'elles aient lieu.
Alors, on peut essayer de comprendre un peu plus en détail ce qui se passe dans ce type de conflit, même si ce ne sont pas des situations équivalentes. J'ai en tête un article de Mathilde Gohanec dans Mediapart, enfin c'est un site, donc on peut peut-être dire sûr, le calvaire administratif d'une professeure des écoles en quête de réhabilitation. On est là aussi dans l'Académie de Normandie. C'est une enseignante qui a contesté un rapport d'inspection. Depuis, c'est la dégringolade professionnelle. Je reprends les termes de Mathilde Gohanec. L'administration est mutique et ne répond pas à ses demandes. C'est ça, pour vous, la maltraitance?
Ça fait partie de la maltraitance, c'est-à-dire que régulièrement, des collègues, alors ou suite à une inspection, ou suite à une difficulté rencontrée dans le rapport, dans l'exercice du métier, contactent l'administration, alors que ce soit au niveau départemental ou au niveau du rectorat, de l'académie. Et puis, très souvent, on se heurte à un mur, alors à un mur de silence, ou alors parfois, dans le pire des cas, à des intimidations pour demander de cesser. Je ne connais pas la collègue qui s'est exprimée dans Mediapart, mais on imagine bien qu'elle doit être surveillée par le rectorat et qu'ils vont s'assurer qu'elle ne parle pas trop.
Surveillée. C'est qui cette hiérarchie? Est-ce que c'est le chef d'établissement? Est-ce que c'est quelqu'un au niveau du département, d'Azen? Est-ce que c'est dans au sein du rectorat? Quels sont les postes dont vous parlez? Parce que pour quelqu'un qui n'est pas dans l'éducation nationale, et même pour moi, c'est ultra abstrait.
Mais en fait, c'est abstrait pour tout le monde, parce que les collègues sont toujours confrontés à leur hiérarchie directe. Effectivement, l'inspecteur dans le premier degré ou le chef d'établissement dans le second degré. Et ensuite, ce premier échelon hiérarchique, en réalité, c'est le fruit d'une longue chaîne hiérarchique. Et à tous les niveaux, on retrouve ce phénomène de brutalisation, d'injonction, de parfois contradictoire d'ailleurs, où on demande à la fois aux agents de respecter des règles tout en étant concepteurs de leur métier et d'atteindre des objectifs qui ne sont pas forcément atteignables avec les moyens qu'on nous donne. Donc il y a vraiment une forme de peut-être de fuite en avant aussi, de consignes de hiérarchie qui se répercutent d'un échelon à l'autre et qui fait qu'au final, quand un collègue est en difficulté, effectivement, il ne sait même pas lui-même vers qui se tourner et toutes les portes auxquelles il frappe restent fermées en réalité.
Mathieu Bosque.
Oui, moi je voudrais commencer par dire toute mon empathie avec Claire-Marie Ferré et tous ses collègues de Normandie. J'imagine que perdre un collègue, neuf collègues, c'est un drame humain. C'est difficile à vivre. Donc, toute mon empathie avec vous. Maintenant, avec la prise de recul et le rôle un petit peu intellectuel que je peux apporter à travers ce livre, j'aimerais qu'on se pose la question de comment on en arrive à cet extrême. Et même, je fais le lien, comment on en arrive aussi à la perte de sens dont je parlais tout à l'heure en introduction. Je pense que l'éducation nationale incarne un petit peu un échec de la politique de nos élites. C'est cette politique qui s'est incarnée dans l'affaire McKinsey où on pilote toutes les visions qu'on peut avoir des grands sujets de la nation avec des tableaux Excel et des chiffres. Ça avait commencé avec Nicolas Sarkozy qui avait amené le fameux un fonctionnaire sur deux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on ne remplaçait qu'un fonctionnaire sur deux.
Oui, on s'en rappelle très bien, d'autant que pour les enseignants, il y a eu aussi des conséquences d'une politique menée à cette époque-là, quoi qu'on en pense, mais je la décris, qui a consisté à supprimer le concours et donc des années de stage pour les enseignants. Je vous laisse poursuivre, Mathieu Bosque, ce discours, cette prise de parole qui est aussi très politique.
Exactement. En fait, le pilotage aux chiffres, on oublie la vision, on prend un tableau Excel, on regarde le chiffre en bas, et à la fin, il faut que ça fasse 20%, 50%. Alors maintenant, ça a continué, en fait. Avec Blanquer, il y avait pareil, une politique aux chiffres, à la fin, il fallait que ça fasse 3%, et on réfléchissait pas à autre chose que ça, on faisait rentrer le chiffre dans la case. Alors, il y a un lien à faire avec les autres services publics. À l'hôpital, dans beaucoup de services publics, il y a eu la même politique qui a été menée, qui a d'ailleurs été théorisée par des sociologues comme Luc Boltanski, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le nouvel esprit du capitalisme » et qui décrit ce que c'est que
99.
Exactement. La gestion axée résultats. Et donc, ce chiffre, ce pilotage par les coûts et seulement les coûts, il nous fait oublier le sens. On ne se pose plus la question de qu'est-ce qu'on veut. Quelle est la place de l'enseignant dans la société? On regarde simplement un chiffre. Et donc, d'en arriver là, je pense qu'on en a, au final, participé, pour dire aussi la société qui a eu sa place, mais on a participé à vider le sens du métier d'enseignant.
Mais Mathieu Bosque, puisque vous êtes engagé en politique, à gauche, c'est Picardie debout, c'est à gauche, très à gauche, ça, vous le pensiez avant d'enquêter sur l'école, ou votre enquête vous a fait peut-être évoluer dans votre regard sur l'institution scolaire?
J'ai fait 2 ans d'enquête.
Et vos recherches.
J'ai fait 2 ans d'enquête et de recherche historique à partir de ça, en fait. Je vous l'avais dit, j'appartiens à un camp politique, à Picardie debout, c'est le camp de la gauche de rupture. Et pour ça, je dialogue et je dialoguais avec des enseignants. Et donc en 2017, d'ailleurs ça fait un chapitre du livre, je mesure que la gauche a perdu le monopole des profs, en fait. Qu'on avait une ligne politique qui était de dire, grâce à l'école, jeunes de France qui voulez réduire les inégalités, faire un pays plus juste, ben engagez-vous à l'éducation nationale et vous allez participer à faire cette grande cause. Eh ben ça ne résonne plus. Je parle à des profs qui me disent, en salle des profs, on s'intéresse plus vraiment à la politique. Il y a eu une coupure. Et donc, je rentre dans l'éducation nationale par cette petite lorgnette, en fait. je rentre dans le sujet par cet angle-là et je découvre un problème beaucoup plus large. Je découvre en fait, je le synthétise en retenant deux chiffres, qu'on a un problème sur le niveau des élèves. Un cinquième des gamins qui sortent du collège ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Alors ça, c'est les chiffres de quand j'ai commencé. Les derniers chiffres de l'OCDE, c'est plutôt 27%. Donc c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a 170 000 enfants tous les ans qui sortent et qui derrière vont pas être capables de vérifier une facture, de répondre à un courrier parce qu'ils ont honte de leur écriture, ou même enfin à la caisse, si vous voyez quelqu'un, vous lui dites, mais bougez pas, je vous donne 20 centimes pour vous arranger, il est complètement perdu. Voilà, c'est ces enfants-là qui ont perdu. Et le deuxième chiffre, qui je pense est un chiffre majeur et qui révèle beaucoup de choses sur la place de l'éducation dans notre société, c'est les postes non pourvus.
Mais justement, en fait, ce constat, alors qui peut être aussi discuté, mais c'est pas complètement notre point ce soir, hein, Mathieu Bosque, mais ce constat répété de baisse du niveau des élèves, et on peut s'intéresser aussi à ce qu'on compare hein, entre les différents pays, ça met en cause les enseignants. Est-ce que vous pensez que ça fragilise, Claire-Marie Ferré, la profession, qu'on parle des élèves du primaire, parce qu'il y a des études sur le niveau des CM1, par exemple, en mathématiques, qui ne sont pas très très bonnes, mais voilà, c'est pas la première fois. Et puis, évidemment, au collège, avec PISA, enfin, à la fin du collège, l'entrée du lycée, c'est pour les élèves de 15 ans.
Mais ce qui est sûr, c'est que ça participe à la crise de sens que la plupart des collègues ressentent. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une forme aussi de culpabilisation. C'est-à-dire que il s'agit un peu de rendre chaque enseignant responsable d'un échec, alors que nous, on sait bien que c'est un système en réalité qui ne fonctionne pas. Et on est les premiers à le dire. Ça ne fonctionne pas parce que on a parlé de la formation des enseignants qui n'est pas à la hauteur et qui n'est pas du tout suffisante.
Ce qui est pointé dans les mêmes études, hein, l'OCDE avec PISA le répète hein, pour la France depuis des années, formation voilà, initiale et continue.
J'allais dire, la formation continue ces derniers temps qui est complètement menacée parce que comme on n'a plus de remplaçants, on ne veut plus faire sauter la moindre heure de cours et donc on menace maintenant la formation continue des enseignants. Et puis, une série de réformes aussi qui sont venues percuter le sens du métier qui font que les collègues ne se reconnaissent plus forcément dans le métier qu'ils avaient choisi ou dans la mission de service public d'éducation qui leur est confiée. Donc oui, ces mauvais résultats dont on essaye de faire peser le poids sur les épaules des enseignants, oui, ça fragilise les collègues. Alors qu'en réalité, c'est vraiment une responsabilité collective, une responsabilité de système, et que à chaque fois que les professionnels proposent des solutions, elles ne sont pas entendues, elles ne sont pas écoutées. Et on s'appuie effectivement davantage sur les conseils de McKinsey que sur les professionnels de l'éducation.
Vous me permettez de rappeler que McKinsey, c'est donc un bureau d'études qui avait, au moment où Jean-Michel Blanquer était ministre, rendu un rapport sur l'état de l'éducation nationale, un rapport qui avait été peu apprécié par les syndicats enseignants, par exemple, sachant qu'on dispose aussi de rapports et de connaissances qui émanent du ministère lui-même, qui a des services hein, pour à la fois chiffrer la politique de l'éducation, pour chiffrer les résultats. Il y a aussi des évaluations françaises qui sont nombreuses, et donc le service s'appelle l'ADEP. Mathieu Bosque, vous voulez réagir?
Oui, juste pour préciser un petit peu ce chiffre de la baisse du niveau, il est intéressant vraiment quand on rentre dedans, quand on ne se contente pas juste de regarder le classement de la France par rapport aux autres pays. Si on étudie en détail cette baisse du niveau, on se rend compte que c'est le niveau des plus faibles qui baisse. Et c'est très lié aux inégalités sociales. Le niveau des plus faibles, c'est aussi le niveau de ceux qui sont les enfants des plus pauvres. Donc, si notre système national en fait est en train de rétrograder de place en place à chaque concours de l'OCDE, c'est parce que on a un décrochage du niveau de ceux qui sont le plus en difficulté sociale et qui sont les enfants. En fait, je vous parlais de 20% qui passe à 27%. Quand moi, j'étais à l'école, c'était pas 20%, c'était 14%. Donc, ça veut dire que on a rajouté un Kevin, une Lola dans les deux gamins qui, à l'époque, n'y arrivaient pas. Mais maintenant, ils vont être 4, 5, 6 par classe. Et aussi, juste poser quelque chose. Enfin, vous avez commencé en disant que ça va pas être l'émission la plus gaie de la saison. Ça sous-entend un petit peu qu'il y a beaucoup de problèmes à l'éducation nationale, que tout va mal.
Quand on parle de suicide...
Oui.
On se doit forcément voilà,
Oui, c'est sûr.
De montrer aussi une forme de tristesse, et elle est tout à fait réelle devant des faits aussi choquants et perturbants. Et je pense qu'ils le sont pour les élèves, les parents d'élèves, et on va revenir d'ailleurs à cette question.
Bien sûr, mais ce que je voulais dire, c'est que à l'éducation nationale en France, on a quand même un déjà là qui est, même s'il y a des problèmes, qui est remarquable. On a quand même 800 000 profs qui sont globalement bien formés. On arrive à avoir des résultats. Il y a des bâtiments, il y a des administrations qui font de la logistique, enfin qui assurent la logistique de cet immense ministère. Et ce que je veux dire, c'est que en fait, on va pouvoir en parler tout à l'heure, mais je pense que tout est très loin d'être perdu et qu'on a les clés devant nous pour pouvoir trouver des solutions à tous ces problèmes et qu'on n'est pas condamné à devoir faire des émissions de radio sur le suicide quand on parle à l'éducation nationale.
Mais c'est important d'en parler. En même temps, je vous ai aussi invité pour entendre cette parole. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une forme de défense de l'école et de l'école publique, puisque c'est ce à quoi vous vous livrez dans votre ouvrage « À la recherche des profs perdus », Mathieu Bosc, à savoir formuler aujourd'hui. Alors, ça n'empêche pas de s'intéresser au problème, j'y reviens. Cette question des professeurs maltraités qui se sentent maltraités, hein, qui est notre sujet de ce soir, professeurs peut-être perdus pour l'éducation nationale, puisque ils sont plus motivés, parfois ils la quittent, et certains se sont suicidés ces dernières années. En fait, c'est tout le sujet de Christophe Tardieu, alias Remedium. Il est professeur des écoles à Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis. Il est auteur de bandes dessinées publiées d'abord en ligne et puis aux éditions des Équateurs sous le titre « Cas d'école ». Ces bandes dessinées racontent eh bien, des cas de professeurs qui se sont sentis extrêmement maltraités ou qui se sont suicidés. Je lui ai demandé quelle était la plus-value de cette forme bande dessinée pour évoquer ces problèmes et ces questions.
C'est surtout d'incarner les victimes, de les représenter, de montrer ce qu'elles ont vécu. Lorsqu'on lit leurs histoires dans des faits divers de journaux, c'est toujours assez neutre. Finalement, on lit ça et on passe à autre chose. Dans la société d'information et de multitudes d'informations dans laquelle on vit, c'est toujours très compliqué de se représenter des choses. Donc l'idée, c'était vraiment d'incarner, de représenter. La BD, pour ça, c'est un moyen extraordinaire. Et puis, de prendre le temps, effectivement, de raconter le déroulé des événements. De dire, voilà, il y a eu telle étape, puis telle étape, etc. Et de montrer comment les choses s'enchaînent comme ça et comment ça peut créer une catastrophe personnelle pour un individu.
Qu'est-ce qui a provoqué ce désir d'en parler chez vous et d'en parler comme ça?
Ça a été en mars 2019 avec le suicide de Jean Villot, qui était un enseignant d'Aubonne. C'est un suicide qui a touché énormément la communauté enseignante parce que ça cochait vraiment toutes les cases justement du rapport qu'on pouvait avoir à la hiérarchie, c'est-à-dire le manque de soutien, ce qu'on a appelé le pas de vague à cette époque-là. Pour moi, ça a été une espèce de déclic où je me suis dit, tiens, je vais raconter son histoire. Et puis, en racontant son histoire, je me suis rendu compte que je pouvais faire la même chose avec d'autres enseignants. Et le projet est né comme ça.
Comment vous assumez de donner à voir cette face si sombre de l'école d'aujourd'hui?
Le fait de montrer cette image-là permettait pour moi de montrer quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, effectivement. Souvent, quand il y a quelque chose qui dysfonctionne dans l'éducation nationale, on va justement, d'une manière assez facile, pointer soit les enseignants, soit les parents, soit les élèves. On oublie toujours le rôle de cette hiérarchie derrière qui a une politique à mener et qui a une manière de gérer les ressources humaines, comme on dit maintenant, très violente et très stigmatisante envers ses agents. Donc le fait de condenser comme ça toutes ces expériences-là dans des histoires et de les mettre ensemble, ça crée un tableau forcément très sombre, très noir, mais c'est une nécessité, à mon sens, de le montrer pour que les gens soient au courant de ce qui se passe réellement dans ce milieu-là. C'est une manière de manager un petit peu les équipes qui est effectivement violente et qui répond à une politique qui s'applique quasiment à chaque fois. Et c'est ça que le projet montre, c'est que effectivement, il y a, quel que soit l'endroit où ça se passe, quelles que soient les académies, quels que soient les enseignants qui sont touchés, on a les mêmes mécaniques qui se créent, qui se mettent en place. Et il y a un côté systémique finalement dans ces violences à l'égard des agents, avec une répétition, des points communs, avec toujours cette idée de mettre un peu sous le tapis les problématiques réelles des enseignants et d'occasionner en cela des violences et des soucis prégnants chez eux. ce que souhaitent les enseignants, c'est déjà qu'on valorise leurs actions, leur travail, etc. Et que l'on parle effectivement de tous ces problèmes, notamment alors de manque de moyens, je sais que vous en parlez aussi dans votre émission, le manque de considération, le manque de moyens humains aussi, c'est-à-dire le fait que des enseignants doivent assumer beaucoup plus de travail qu'auparavant. Le plus important, c'est de prendre en compte la douleur des enseignants, leurs problématiques, burn-out. Effectivement, ce sont des choses qui sont difficilement reconnues par la hiérarchie. Il faut se battre systématiquement pour être reconnu dans ce statut-là. Lorsqu'on est face à cette montagne que représente la hiérarchie, on peut se sentir dépossédé de son histoire. L'idée de se la réapproprier et de dire non, c'est moi qui suis le héros quelque part de ma propre histoire et c'est moi qui lutte et c'est moi qui raconte parce que c'est moi qui détient la vérité. Il y a un peu cette idée-là quand même derrière ces témoignages.
Est-ce que vous avez l'impression que vous, les enseignants, parfois, l'administration tente de vous faire avaler des couleuvres ou de vous faire prendre des vessies pour des lanternes ?
Oui, évidemment, ça arrive tout le temps, c'est notre quotidien. Après, j'allais vous dire, ils essayent de moins en moins. Ils essayent surtout désormais de faire avaler des couleuvres aux usagers de l'école, aux parents. Voilà, parce que nous, ils savent qu'ils nous ont perdus, ils savent qu'on les écoute plus, ils savent que leur discours ne fonctionne pas et qu'on reste toujours sur la même politique, quelles que soient les têtes de ministres qui défilent. Donc, finalement, ce discours-là, ce gaslighting-là, c'est surtout en direction des parents, pour leur faire croire, leur faire valider toutes leurs réformes sur le dos des enseignants. C'est pour ça que toutes les initiatives destinées à apporter une certaine forme de témoignage au grand public, ça permet de contrecarrer un petit peu ce discours-là.
France Culture. Être et savoir. Louise Touret.
Remedium sur les réseaux sociaux, le nom de la bande dessinée publiée aux éditions des Équateurs, c'est Cas d'école. Pas mal d'éléments dans cette interview, Claire-Marie Ferré, sur lesquels je voudrais vous demander de rebondir. Il y a vraiment un sujet, l'école contre les enseignants. C'est un peu notre sujet de ce soir. Quand je dis maltraite-t-elle les enseignants, c'est à peu près la même chose. Mais est-ce que c'est un projet ? Parce que dans cette prise de parole, et ce n'est pas vraiment ce que disent les syndicats, en tout cas pour le moment, en tout cas pas dans ce que moi j'ai lu, mais là on l'entend et c'est un peu ce qu'a dit Mathieu Bosc, qu'il y a dans ce New Public Management, je ne sais pas si l'expression a été prononcée telle quelle, mais c'est un peu ça, et dans la manière de diriger l'école vers on ne sait pas trop quoi, peut-être l'idée que les professeurs, tels qu'ils se sont constitués comme corps assez contestataires, ennuie un petit peu les visées, mais en même temps, ce sont des ministres successifs qui ne sont pas les mêmes. Donc, comment vous percevez des choses ?
C'est difficile de savoir s'il s'agit d'un projet ou s'il s'agit surtout d'un résultat. Alors, je ne sais pas si les profs, c'est une profession contestataire. En tout cas, c'est une profession qui, normalement, dispose d'une forme de liberté, notamment d'une liberté pédagogique et d'une liberté de pensée à laquelle on est quand même très attaché. Et on voit bien, effectivement, ces dernières années, à quel point ça pose problème à ceux qui nous gouvernent et à quel point il y a des tentatives de faire taire ou de faire parler un peu moins fort. Il y a une casse du collectif aussi, des mesures, on l'a vu parfois sur certaines procédures disciplinaires où on essaye de faire en sorte que les collègues s'expriment moins et on s'attaque à leur liberté, effectivement.
C'est vrai qu'il y a eu des cas récemment, un enseignant à Nanterre en particulier qui a contesté sa mutation pendant des années. Son nom va me
Kaiterada.
Kaiterada,
oui,
voilà. Et merci de vous en être souvenu. Cette idée d'un projet systémique d'une école contre les profs, Mathieu Bosc, est-ce que elle est totalement nouvelle ou est-ce que finalement,
non,
ça s'est déjà trouvé par le passé, puisque dans votre livre, ça alterne des chapitres historiques avec des rencontres.
Et on voyage en France et on voyage dans le temps.
Du monde d'aujourd'hui, voilà.
Non, mais votre question est très pertinente. C'est une bonne question de se demander d'où on part. Et Claire-Marie Ferré parlait de liberté pédagogique. C'est vrai qu'en France, il y a deux grands courants qui se disputent un petit peu la logique de l'éducation nationale. Ça se voit très clairement au moment où le collège a été dessiné, a été gravé dans le marbre dans les années 70. On a un courant qui est incarné par les élus de gauche à l'époque, et qui essaye de défendre une école qui part de l'individu, qui part de l'humain. C'est-à-dire qu'on se demande, en gros, ben, qu'est-ce qu'un gamin de 11 ans est capable de faire avec ses moyens cognitifs, et on construit sur tous les plans, que ce soit le parler, le français, enfin voilà, les savoir-faire manuels, tous les plans où l'enfant est capable. Et on a la droite de l'époque qui, elle, en fait, est obsédée par le niveau de l'élite. Ils ont peur que le collège qui existait avant les années 70 et qui s'appelait le lycée à l'époque et qui était celui des classes sociales supérieures où on rentrait en sixième, on apprenait le latin, on apprenait des matières abstraites qui menaient jusqu'au baccalauréat général. Et donc, quand on construit le collège, on pose le baccalauréat général comme étant la ligne d'horizon. Et on construit à partir de ça, on descend à partir du bac général. On dit en terminale, il faut savoir ça pour le bac général, en première, etc. On descend tout le collège comme ça. Sauf qu'il n'y a que 40% d'une génération qui a le bac général. Et on se retrouve avec 60% des gamins qui sont au collège, avec un objectif caché derrière la façon dont il a été pensé, qui n'est pas le leur. Et donc les enseignants, au milieu de tout ça, en fait, sont un petit peu les victimes de ce choix qu'on n'a jamais fait, et se retrouvent face à des enfants qui ne sont pas là pour ça. Et qui, du coup, n'accrochent jamais.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une grande réflexion sur l'école des communs et que cette critique du collège, elle est formulée depuis le début. Et en même temps, les enseignants du collège qui enseignent des disciplines à la manière du lycée défendent aussi ce collège avec des disciplines qui ressemblent peut-être plus au secondaire qu'au primaire, mais qui est peu démocratique. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Est-ce que, d'ailleurs, cette difficulté du collège à faire réussir plus d'élèves engendre du malaise chez les enseignants ?
Ah bah, évidemment que l'échec de certains de nos élèves est une cause majeure de souffrance, ou en tout cas de frustration, d'insatisfaction professionnelle. La question qu'on se pose, c'est plutôt de comment les faire réussir. Et ça, je crois que c'est quand même une question. Tout à l'heure, vous parliez de collègues qui étaient peut-être moins motivés. Nous, c'est pas quelque chose qu'on constate. Oui, on rencontre des difficultés dans l'exercice du métier, mais la très grande majorité des collègues est motivé pour faire réussir ses élèves.
Alors... C'est pas une parole de syndicaliste, pardonnez-moi, mais on sait aussi que c'est difficile. D'ailleurs, on peine à recruter donc des gens, en tout cas motivés pour être motivés en tant que prof. Il y en a moins qu'avant.
Ah bah, qu'il y ait moins de gens pour exercer le métier dans les conditions qui sont les nôtres, c'est sûr que c'est difficile. Mais que les collègues exercent leur métier avec l'ambition de faire réussir les élèves, ça, pour le coup, tous les collègues présents vous le diront. C'est pas une formule de syndicaliste, hein, c'est une réalité qu'on constate aussi bien dans les écoles que dans les collèges et dans les lycées. Néanmoins, évidemment, on n'a pas parlé des effectifs dans les classes, par exemple, mais c'est toujours plus difficile. Chaque année, on a de plus en plus d'élèves dans les classes et c'est plus difficile forcément d'avoir de l'attention pour tous. Il y a aussi une population scolaire qui a changé. Il y a des classes qui sont plus mixtes, avec beaucoup d'élèves notamment en situation de handicap qui sont inclus et qui viennent percuter aussi une forme d'exercice du métier un peu plus uniforme. Et pour autant, c'est des différences qui nécessitent à la fois une formation, un accompagnement, des moyens humains dont on manque une nouvelle fois. Mais ça ne veut pas dire qu'on renonce à l'ambition de les faire tous réussir.
D'ailleurs, la démographie scolaire, c'est un grand sujet pour l'éducation nationale, dont on voit qu'il est relativement négligé, en tout cas pris avec une certaine légèreté. Vous faites allusion aux classes très chargées. Alors aujourd'hui, on ferme des classes, mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'au lycée, il y a énormément d'élèves parce qu'on a eu beaucoup de naissances autour des années 2010. Avant et un peu après, jusqu'en 2014, et que ça a été finalement peu anticipé par les pouvoirs publics, comme si on cherchait aussi à faire tenir le maximum d'élèves avec un minimum de profs. Cette politique, elle doit vous interroger, Mathieu Bosse.
Si vous le voulez bien, je voudrais juste défendre un petit peu les professeurs avec Madame Ferré. Accuser les professeurs sur cette question de l'enseignement au collège, je pense que c'est un peu injuste parce qu'il n'y a même pas que l'école qui tombe dans ça. La société entière a hiérarchisé le savoir-faire manuel et le savoir-faire abstrait. dans quand on pense à un avocat, on se demande pas s'il est intelligent. L'avocat, de facto, on lui donne les pâmes de l'intelligence. Le médecin, c'est pareil. On fait pas la même chose avec le plombier. On reconnaît pas aux gens qui sont dans les travaux plus manuels, les gens qui travaillent, les femmes qui travaillent dans le social. On leur reconnaît pas une intelligence de base. La société à hiérarchiser les savoirs.
Mais ça touche le fonctionnement même du collège. Enfin, ce que vous dites, puisque c'est les enseignements pratiques, ils ont beaucoup moins de place. D'ailleurs, on peine à recruter des professeurs de technologie.
Oui, et je pense que on aurait tout à gagner à poser à l'égal des grandes matières que sont le français, les mathématiques et l'histoire, une grande matière de l'intelligence manuelle. Pour des raisons sociales évidentes qui permettraient aux enfants qui ont une intelligence plus manuelle d'avoir des 20, eux aussi. Mais aussi parce que dans la société de demain, où on parle beaucoup d'écologie, on se dit que on aimerait arrêter de dépenser des énergies fossiles. Est-ce que ça a du sens que quelqu'un qui peut-être très bien réussi à l'école, a un diplôme, bac plus 5, etc., soit incapable de déboucher son évier et doive appeler un plombier qui fait 50 km pour venir le faire à sa place? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire en sorte de fixer des savoir-faire universels qu'on voudrait que tous les enfants aient pour aller vers une société qui est plus autonome ou avec des gens plus complets?
Donc je vous ai parlé de démographie scolaire et vous me répondez, réinventons l'école. Mais puisque vous avez fait des recherches historiques, vous voyez bien que les bases de cette école, elles ont été jetées il y a très longtemps, au 19e siècle aussi, que même quand on avait une école, deux écoles en gros, enfin une école pour le peuple et puis une école beaucoup plus élitiste, bien la grande réussite, même pour les enfants du peuple, c'était d'intégrer cette école élitiste. Ça date pas du collège unique, cette histoire de préférer les savoirs abstraits en France aux savoirs concrets.
Mais je m'appuie pas sur quelque chose qui sortirait ex nihilo. C'est inscrit dans l'ADN de l'école française. Les républicains dont vous parlez, qui ont fait la grande école laïque, publique, obligatoire et gratuite, ils avaient aussi cette logique-là. La leçon de choses, c'était quelque chose que Ferdinand Buisson, qui était le fonctionnaire, le bras droit de Jules Ferry, avait posé. Il disait qu'il fallait que l'enseignant amène le faisant empaillé en classe pour que les gamins puissent le voir par eux-mêmes, pour pas qu'ils aient à le croire sur parole. Donc il y a eu toute cette logique de faire jardiner, qui marque encore le primaire et un petit peu le secondaire, parce que les choses sont pas cloisonnées. Mais de par la hiérarchie de cette société, coupé un petit peu les choses. Moi qui ai eu un parcours scolaire, j'ai eu le bac général, j'ai fait des études. Je n'ai jamais vu un enseignant professionnel de ma vie. Je ne sais pas ce que c'est. Donc déjà dans les années 70, quand j'ai regardé les minutes des débats à l'Assemblée, à l'époque, dans les années 70, on disait, comme aujourd'hui, il faut revaloriser l'enseignement professionnel, il ne faut pas que ce soit une voie de garage. Mais quelle façon de le valoriser ne serait pas mieux que de l'incarner avec un professeur qu'on verrait au collège, qui représenterait une matière valorisée comme une matière de l'intelligence de la main, qui serait évaluée au brevet. On a besoin d'incarnation, je pense, pour valoriser quelque chose, et les slogans suffisent pas. Not today, not tomorrow. Kinda strange, feeling sorrow. I got change, you could borrow. When I come back around, when I know what to say. Not today, maybe tomorrow. Open up the door, can you open up the door? I know you said before, you can't cope with you told me it was war, said you'd show me what's in store. I hope it's not for sure. Can you open up the door? Did you
She Giro, Billie Eilish. Ce soir, on parle de la souffrance des professeurs. L'éducation nationale maltraite-t-elle ses personnels? C'est une question, en tout cas, qu'on pose en Normandie, où une série de suicides a beaucoup choqué tout le milieu éducatif. Et je pense au-delà, avec nous Mathieu Bosque, journaliste et auteur de « À la recherche des profs perdus », c'est une enquête publiée aux éditions de l'Aube, et Claire-Marie Ferré, justement secrétaire académique du SNES-FSU Normandie. Quelles sont les conséquences sur les élèves et les parents d'élèves de cette crise qui traverse votre académie? D'ailleurs, la traverse-t-elle? Parce que les établissements sont nombreux et très différents les uns les autres. Qu'est-ce qu'on entend de la manière dont résonne cette actualité dramatique?
Alors, je ne sais pas si l'actualité dramatique a vraiment résonné jusque chez les élèves et chez les parents, à part dans les établissements concernés. Établissements concernés, il y a eu vraiment un déficit aussi d'accompagnement, aussi bien des collègues que des élèves. Et ça fait partie des choses qu'on a posées sur la table lors de la fameuse réunion fin janvier, pour que réellement des cellules d'écoute, un accompagnement puissent être mis en place au niveau des établissements quand survenaient ou quand surviennent des événements dramatiques, afin de pouvoir au moins écouter, accompagner les élèves et les collègues concernés.
Et pour rester sur les élèves, parce que c'est une question tout à fait sincère et peut-être un peu naïve de ma part, sur ce que c'est que d'être élève dans une institution qui ne va pas bien. Et ce que c'est que d'être élève dans des établissements où les professeurs ne vont pas bien. Est-ce que c'est une question que vous posez au sein de votre syndicat, Claire-Marie Ferré?
La question de la souffrance au travail, elle a forcément ensuite des implications dans les classes. Il y a forcément des élèves qui pâtissent d'avoir face à eux ou des collègues qui vont mal ou des collègues qui ne sont pas là parce qu'ils vont trop mal. Et on le sait aussi, la question des professeurs non remplacés, elle est très importante. Alors il y a plein de métiers qui demandent de l'énergie et de la disponibilité d'esprit. Mais forcément, quand on est enseignant devant une classe d'adolescents ou devant une classe de jeunes enfants, oui, il faut être en forme, il faut être disponible, il faut être si possible de bonne humeur et avoir de la patience. Et forcément, quand par ailleurs on éprouve une forme de mal-être, on ne se reconnaît plus dans son métier, oui, les élèves en pâtissent forcément. Et il y a forcément des élèves qui rentrent chez eux en disant que tel cours s'est mal passé ou qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe dans telle ou telle discipline parce que le ou la professeur qu'ils ont face à eux n'est pas en mesure vraiment d'assurer l'enseignement qu'il devrait assurer.
Vous avez parlé d'accompagnement des professeurs, Claire-Marie Ferré. Quel pourrait-il être si on voulait l'améliorer?
Si on voulait améliorer l'accompagnement des professeurs, il faudrait renforcer d'abord les services de médecine, de médecine du travail. En Normandie, par exemple, pour 58 000 agents, il y a 2,5 médecins. Évidemment, il n'y a jamais de suivi médical, il n'y a jamais d'action de prévention. C'est très difficile d'avoir un rendez-vous quand on en a besoin. Il faudrait aussi, pour les mêmes 58 000 agents, on a actuellement une psychologue et un poste en attente de recrutement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace pour dire ce qui va mal, il n'y a pas d'espace pour être accompagné, il n'y a pas de solution proposée aux collègues. Et donc c'est des services, alors les services de santé, les services sociaux à destination des personnels, qui devraient être très largement renforcés, mais qui sont pour le moment un impensé.
Cet accompagnement et ce manque d'accompagnement, il touche évidemment les enseignants contractuels dont on parlait tout à l'heure. Mathieu Bosque, des enseignants qui sont recrutés, parce que vous l'avez un peu dit, mais c'est vraiment des gens qui voient une annonce sur le site de France Travail, je crois que ça s'appelle
oui,
maintenant.
Je
dis ANPE mais... des fois, Pôle emploi, bon bref. Et qui vont se retrouver dans une classe 15 jours après. Certains bénéficient de formations assez courtes. D'ailleurs, ça m'a beaucoup étonnée parce que sur les 3 semaines de formation dont vous parlez, quand même une semaine pour se familiariser avec les outils de l'administration et l'informatique.
Oui, j'ai l'impression qu'on ne fait pas beaucoup de pédagogie dans ces 3 semaines. C'est vrai que ça questionne de se dire qu'on peut être à France Travail et se retrouver 3 semaines plus tard devant une classe de CE2. Je ne sais pas si vous qui êtes journaliste, vous imagineriez faire votre métier avec 3 semaines de formation et nous poser des questions comme ça.
Je sais pas si c'est la même responsabilité, en fait.
Donc, je pense que si on se projette personnellement dans cette situation, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, en fait, quand on se projette aussi avec ses enfants, on se dit que ça pourrait être mes enfants qui sont devant un prof qui a fait toute sa carrière dans la logistique et qui ne connaît rien en pédagogie. Et donc là, on a un système au final qui marche sur quelque chose qui est complètement aléatoire. Parce que il faut reconnaître que dans ces gens qui sont job-datés, ben, y a des gens qui se battent et y a des gens qui arrivent à développer un savoir-faire pédagogique et qui font du bon travail avec les enfants. Mais il y en a d'autres pas du tout. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est concentré dans les académies de Créteil et de Versailles qui ont aussi les enfants les plus pauvres du pays. Et ceux qui sont sociologiquement le plus amenés vers ce fameux groupe des 20% qui sortent du collège sans comprendre ce qu'ils lisent, eh ben, eux, en plus des difficultés sociales, on leur rajoute une espèce de biais à gratter où ils vont tomber sur un prof qui a eu une formation pédagogique ou un qui n'en a pas eu du tout.
Ça, on ne sait pas en fait, parce que les syndicats sont très occupés à défendre les professeurs plus syndiqués, alors pas seulement, mais du côté des contractuels, du côté de tous ces gens qui vont et viennent aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de stabilité, ce sont des professeurs qui parfois cessent de l'être assez rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que là aussi c'est une forme de maltraitance?
Alors, d'abord, préciser que les collègues contractuels qui sont dans nos salles des profs, c'est des collègues, hein, titulaires ou pas, on les considère comme des collègues et on sait bien justement dans quelles conditions ils arrivent parmi nous, sans formation. Parfois, ils n'ont aucune idée du programme qu'ils ont à traiter, des méthodes actuelles ou de ce qu'on attend d'eux. Donc, au contraire, c'est des collègues qu'on accompagne, auxquels on essaye de faire attention. Mais effectivement, je partage exactement ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que ce recrutement et ce parachutage dans les classes, ça fait reposer en fait vraiment sur les individus le bon fonctionnement d'un système. C'est-à-dire qu'on se pose pas la question de comment faire fonctionner l'école. On espère que les gens vont avoir suffisamment de motivation, de bonne volonté, d'engagement personnel pour faire fonctionner quelque chose. Mais il n'y a pas de responsabilité collective de l'institution pour faire fonctionner la machine.
Donc on n'accompagne pas bien les enseignants, si je vous ai bien écouté, Claire-Marie Ferret, mais on leur fait une grande confiance en fait. Hein. C'est bizarre hein, comme situation et comme logique. On aimerait bien aussi, je le dis encore une fois, pouvoir en parler à des gens de l'éducation nationale qui sont évidemment toujours cordialement invités à participer à cette émission. Il y a une actualité aujourd'hui, ce sont les fermetures de classes. La ville de Paris s'est beaucoup mobilisée, mais il y a d'autres fermetures de classes en France qui a mobilisé aussi la ville de Paris. C'est la fin d'un statut dérogatoire pour les directeurs qui, comme le demandent beaucoup de directeurs et de directrices d'école en France, n'ont pas de classe, mais s'occupent de l'administratif et des projets d'école en particulier. Enfin, je m'arrête de parler, puis je vous laisse écouter un extrait de son recueilli pendant la manifestation du mardi 11 février.
Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des réponses. On n'acceptera pas ces 110 suppressions de postes, ces 198 fermetures et ce retrait des charges.
Vous savez qu'on va arriver à des chiffres de 50% de scolarisation des élèves en école privée. Donc nous, c'est un crève-cœur, c'est-à-dire qu'on se retrouve à défendre ce qui nous semble l'école, le premier choix pour les parents d'élèves, qui est l'école publique, avec tout ce que ça entend en termes de d'intégration, de projets politiques, de projets pour la République, et de le voir année après année. On parle à peu près, j'ai pas les chiffres exacts, mais on est à pas loin de 500 classes fermées depuis les trois dernières années, et ça devient insupportable.
Alors, je vous invite d'ailleurs à écouter une émission qu'on a faite il y a à peu près 2 ans sur les fermetures de classes en France, parce que c'est un mouvement hein, qui touche en particulier l'école primaire. Alors, je reviens, c'est pas obsessionnel chez moi, mais à la démographie scolaire. C'est vrai que il y a moins d'élèves aujourd'hui en primaire, aussi à Paris, c'est pour d'autres raisons du prix de l'immobilier, lié au prix de l'immobilier. Mais voilà, aujourd'hui, beaucoup de classes ferment dans des villes. On a aussi des classes qui ferment dans des campagnes, ça maintient des effectifs élevés dont on sait qu'ils ne sont pas très très bons pour la réussite scolaire. D'ailleurs, comment vous réagissez, Mathieu, parce qu'on vous entendait ces enseignants mobilisés, qui ne sont pas exactement ceux que vous avez rencontrés, et celles d'ailleurs que vous avez rencontrées dans votre ouvrage?
Ouais, ce que disait l'enseignant qui était interviewé, je pense que ça évoque le et c'est aussi en lien avec ce qu'on disait tous ensemble tout à l'heure, c'est que le système bah, ne peut pas marcher. Quand on recrute des gens en job dating, on se doute bien que c'est pas comme ça qu'on va réussir à faire progresser l'ensemble et même arrêter la pente de l'augmentation de ce groupe, de ceux qui n'arrivent pas à sortir du collège en maîtrisant les savoirs fondamentaux.
Alors, une autre, si peut-être vous voulez réagir à cette actualité et aux effectifs des classes, Claire-Marie Ferré, et j'ajoute à cette question un autre élément qui m'a interpellée, c'est la baisse des candidats à l'encadrement. C'est-à-dire que non seulement on a une baisse au concours enseignant, on en a parlé, mais il y a de moins en moins de personnel qui veulent passer aux fonctions d'encadrement et donc accompagner les réformes qui sont mises en place ou demandées au fur et à mesure des changements de ministres assez nombreux ces derniers temps.
C'est fréquent. Non, mais peut-être d'abord sur les fermetures de classes. Effectivement, la baisse démographique, elle est toujours un prétexte très rapide à fermer des postes et à retirer des moyens, alors que les augmentations d'élèves sont toujours minimisées. Nous, au contraire, la baisse démographique qui peut s'observer par endroit, selon nous, elle devrait permettre une amélioration enfin du taux d'encadrement. Et donc davantage de recrutement pour abaisser les effectifs dans les classes. On sait que c'est quand même un des éléments majeurs dans la réussite des élèves. Votre question sur les métiers de l'encadrement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur une chaîne hiérarchique qui est vraiment en panne. Il y a effectivement chacun est un peu le maillon de la chaîne à devoir faire passer des consignes avec lesquelles personnellement on n'est pas forcément d'accord. Et on a vu ces dernières années ce management se brutaliser, des tensions, voire des conflits se créer entre des équipes et le chef au-dessus.
Brutaliser, c'est quoi ?
Brutaliser, ça veut dire qu'on n'est plus capable de se parler, ça veut dire que l'argument d'autorité l'emporte sur la conviction, par exemple, ça veut dire qu'on entend de plus en plus souvent que on est fonctionnaire, on doit fonctionner, et si on rentre pas dans le rang, on n'a qu'à démissionner, comme si on pouvait se permettre d'avoir de nombreuses démissions actuellement parmi les enseignants. Et donc, évidemment, de moins en moins de gens, de moins en moins de collègues, notamment, se voient devenir encadrants pour se retrouver aussi...
Principal adjoint, principal...
C'est ça, exactement, ou inspecteur, IEN, dans le premier degré, pour devenir, en fait, des maillons d'une chaîne hiérarchique dans laquelle ils ne se reconnaissent plus.
Ça dessine une crise, ça.
Oui, parce que plus que d'être au service de la réussite des élèves ou en exerçant des missions de service public, un des grands mots actuellement, c'est la loyauté et l'obéissance.
C'est ce qu'on vous dit dans les réunions
C'est ce qui se dit dans les réunions d'encadrement.
Voilà.
Donc il y a vraiment cette question de la loyauté, de l'imposition d'un certain nombre de réformes qui font perdre le sens du métier, et cette question de la loyauté face à une institution en crise. Oui, on trouve aussi moins de candidats pour les faire passer.
Pardonnez-moi, ça s'est posé par exemple par rapport au choc des savoirs parce que je crois lire un peu dans vos pensées des fois et au groupe de niveau.
Mais je suis prof de français, donc vous lisez très bien dans mes pensées. Effectivement, la question des groupes de niveau qui devaient se mettre en place en français, en mathématiques, en sixième et en cinquième, ça a entraîné une très forte contestation de la part des enseignants qui ne veulent pas d'une école du tri social. Ça a entraîné aussi beaucoup de réactions de la part des parents qui ne voulaient pas que leurs enfants subissent ce tri dès la sixième. Et face à ça, on s'est retrouvé face à une hiérarchie très souvent démunie, qui n'avait comme seul argument que l'autorité, l'application loyale, alors de textes qui depuis en plus ont été invalidés par le Conseil d'État. Donc on est quand même là sur un conflit de loyauté et un écart bien trop important entre ce que nous voulons faire, nous, en tant qu'enseignants, entre les missions de faire réussir chaque élève et des consignes venues de très haut, au contraire de les trier dès le plus jeune âge.
Avec cette injonction d'un fonctionnaire qui doit fonctionner, qui est quand même intéressante en termes même verbal et historique. Oui. Mathieu Bosque, alors vous vouliez réagir et je vous pose quand même une question au passage parce que l'heure tourne. Vous l'avez dit, vous appartenez à la gauche. Moi, je trouve qu'il y a assez peu de vrais débats autour de l'école et même au sein de votre famille politique, de ce dont on parle, hein, de cette maltraitance. On ne sait pas si c'est une maltraitance institutionnelle ou si c'est l'école elle-même, d'ailleurs, qui est maltraitée. Donc ma question, c'est est-ce que la politique peut donner du sens au métier d'enseignant dont nous parlons ce soir ?
C'est un peu son travail à la politique, de donner du sens. Et quand ça marche, on voit qu'il y a des dynamiques.
Elle devrait, mais est-ce qu'elle pourrait, aujourd'hui ?
Je pense, quand j'ai écrit, enfin, je suis un petit peu dans l'autocritique de mon camp. Je reconnais que la gauche s'est un petit peu reposée sur ses lauriers vis-à-vis des enseignants. Et je me suis lancé dans l'enquête en partant de ça. On s'est endormi sur une facilité puisque on avait qu'à reprendre le discours que les syndicats portaient sur les moyens et on faisait des scores de 60-70% chez les profs et on ne s'est plus posé les questions de quelle était la place de l'enseignant dans la métier de demain, quelle école on veut pour demain. Et le choc des savoirs, je pense que c'est un petit peu ce débat que la gauche se prend dans le visage et où elle n'a pas de discours porteur aujourd'hui contre ce choc des savoirs. On a une vision qui est celle de Gabriel Attal et des dirigeants de vouloir renforcer un petit peu cet élitisme, de comme disait Madame Ferré, de remettre le tri social à l'ordre du jour. Et nous, et c'est un petit peu le but de ce livre, c'est de se dire mais quelle école on veut pour demain ?
Ce qui est intéressant, c'est que le livre est pas paraît pas comme ça ultra militant quand on le lit. Il y a une double préface de Alain Bentolila et de Philippe Mérieux. Donc c'est pas deux personnes qui sont parfaitement alignées d'ailleurs sur leur point de vue sur l'éducation. Laissez parler les enseignants que vous rencontrez et quand vous parlez de l'histoire de l'éducation, vous n'êtes pas très orienté. C'est intéressant d'ailleurs comme manière de procéder. C'est d'abord, vous vouliez quoi, établir des faits, une histoire, quelque chose de qui peut davantage se partager qu'un discours politique ?
J'ai pas voulu faire un tract politique et avec beaucoup de respect pour les syndicalistes aussi, j'ai pas voulu faire un tract syndical. Cette stratégie de porter les moyens comme étant la pierre angulaire du sujet enseignant, elle amène à un dialogue de sourds face à des gens qui disent « il n'y a plus d'argent, donc du coup, c'est pas la peine de demander ». Et donc, pour ne pas rentrer dans ce dialogue de sourds, habilement, j'ai essayé de prendre le sujet différemment. Comme vous dites, laisser parler les gens, parce que les enseignants que je voyais, ils me disaient pas en premier « je suis mal payé ». Ils me disaient « mais qu'est-ce que la société attend de moi ?» Et donc, je suis parti de cette parole-là qui est vraie, que j'ai vue dans des endroits vraiment divers. Et j'en ai tiré le fil et j'ai regardé dans l'histoire pour voir à quoi ça faisait écho, à quelle période, en fait, on avait un petit peu connu des crises similaires à celles qu'on vit aujourd'hui. Cette crise des recrutements, la France l'a déjà vécue et on a déjà mis des solutions en place. Et donc, c'est ça que je cherche à faire le livre.
On l'a déjà vécu aussi à des moments où on avait beaucoup plus d'élèves et beaucoup plus d'élèves qui rentraient, par exemple, dans le secondaire. Aujourd'hui, on s'apprête à en avoir moins. En tout cas à l'école. Donc c'est étrange aussi que cette crise de recrutement continue.
Mais plus ou moins d'élèves, ça ne change rien au fait qu'on a des gens qui ne candidatent pas à l'éducation nationale aujourd'hui. Quand bien même il y aurait moins d'élèves, avec les profs, avec les postes qu'on ouvre, aujourd'hui on ne trouve pas les gens pour venir enseigner. Et donc le niveau des enseignants qui se retrouvent devant les élèves, leur savoir-faire pédagogique, va pas suivre.
Ça, c'est une question dont on a déjà parlé et dont on reparlera. Merci beaucoup. Mathieu Bosque, je rappelle le titre de votre ouvrage, et qui a une forme très originale, hein, entre enquête ici et ailleurs et dans le passé, à la recherche des profs perdus. C'est publié aux éditions de l'Aube. Merci Claire-Marie Ferré d'être venue sur votre temps de vacances.
Oui, enseignante.
Donc vous travaillez pendant vos vacances et merci d'avoir été avec nous ce soir. Et je rappelle aussi le titre de la bande dessinée de Christophe Tardieu, Cas d'école, publié aux éditions des Équateurs.